place publique.
Le mois prochain, c'est reparti pour les vendanges dans la région. En attendant, les villages viticoles fêtent le vin et leurs vignerons, exemple à la Neuville ce soir et ce week-end. L'occasion pour nous d'accueillir un vigneron de l'Entre-deux-Lacs, Jean-Claude Engelrath. Il nous dira comment se présente le millésime pour cette année 2016. Il nous parlera du vin, un produit fragile et toujours plus compliqué à produire.
Laurent Voulzy, Alain Souchon, ces deux monstres sacrés de la chanson française sont au Noirmont pour le Chant du Gros ce soir. Ils seront des milliers de festivaliers pour les acclamer. Le festival Fête en Beauté, c'est 25 ans et pourtant, en un quart de siècle, la concurrence est de plus en plus rude, y compris dans la région. On reçoit Antonin Rousseau après 18h30. Le directeur de Festinoche nous donnera son point de vue sur l'état d'un marché toujours plus prisé.
Et enfin, le maire de Delémont, Damien Chapuis, sera des nôtres en dernière partie d'émission. L'occasion d'évoquer le calme avant la belle tempête qui s'annonce dans la capitale jurassienne d'ici 10 jours. En effet, c'est une ville qui sera prise d'assaut par quelques 600 étudiants pour la rentrée des hautes écoles. Ce sera donc le baptême du feu pour le nouveau campus stratégie.
Jusqu'à 19h, place publique. Nadia et Gabriel.
Et bonsoir justement Nadia.
Bonsoir Gabriel, bonsoir à tous. Bienvenue dans Place Publique, une émission qui débute avec un sécateur à la main. En effet, l'heure des vendanges va sonner, l'occasion de faire le point sur le millésime 2016 après 3 années difficiles pour la profession dans la région. Grêle, sécheresse, mouches Suzuki, fongicides, certaines récoltes ont été décimées dans le vignoble de la région. Preuve s'il en est que le vin est un produit fragile et on en parle avec vous ce soir, Jean-Claude Engelrath, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes le patron du domaine viticole du même nom, au Landron, vigneron, encaveur et restaurateur. Est-ce que cette année, le raisin va de qualité et de la quantité avec beaucoup de pluie en juin et ces dernières semaines plutôt sèches ?
Eh ben c'est vrai que pour l'instant ça se passe bien. C'est vrai que ce printemps était un peu difficile pour bien du monde. Il a fallu suivre au niveau des traitements, l'humidité. Et ensuite, on a eu une belle fleur, on va dire, au mois de juin. La fleur a bien passé à peu près sur tout. Sur quelques chasselas, un peu moins, mais ce qui n'est pas plus mal, ça permettra de ne pas couper. Et ensuite, maintenant, c'est vrai qu'un bel été, juillet, août, qui était vraiment super, des petites pluies entre deux. Mais ça, c'est encore assez éparse. Nous, on a eu, je dirais, un peu plus de chance que certains coins, parce que août, on a eu quand même quelques millimètres. On a eu aussi quelques millimètres là, ce week-end.
Donc bien dans l'Entre-deux-Lacs, et puis pas trop de Suzuki cette année.
Pour l'instant, ça se passe pas mal. On a pas mal de comptages qui se font. Je dirais que les comptages sur Cressier sont très très bas actuellement. Il y a un petit peu plus sur Beauvais et sur Auvergne, mais ça reste encore assez faible, je dirais, par rapport à certaines régions de Suisse qui, eux, ont des gros soucis ou même des problèmes de mildiou, d'odium sur le lavo.
Et comment on gère ces années qui se suivent et qui ne se ressemblent pas ? Vous nous dites que vous produisez par exemple 50 000 litres, je vais y arriver. Vous produisez 50 000 litres habituellement, et là ces dernières années c'était plutôt 30 000, c'est-à-dire presque 2 fois moins. Comment on compose avec des années qui vont parfois du simple au double ?
Enfin, j'ai jamais produit 50, c'est ce que je pourrais faire.
Ah d'accord.
Ouais, au niveau de mes quotas. Après, sinon, je suis assez faible dans mes quotas, mais c'est vrai que ces années-là, on a eu maintenant trois années, on a eu vraiment, vraiment peu. Moi, j'ai été vraiment tapé dans la grêle en 2013. Après, je suis pas assuré, donc ça c'est un peu bon. Ça c'est mon choix. Je m'auto-assure avec mon stock de rouge parce que je vends des vins.
C'est le stock qui vous fait survivre.
Voilà, je vends des vins rouges qui ont déjà quelques années de bouteille, et puis je joue un peu là-dessus. Mais là, entre 2014, la sécheresse, 2015, enfin, ça devient un peu pénible. Et puis on se réjouit d'avoir une bonne année parce que cette année ça s'annonce assez bien. Donc tout le monde ça attend un peu impatient ses vendanges, en espérant que ça se passe bien et qu'on puisse un peu refaire un peu de volume.
Au vu des nombreux périls qui menacent les récoltes. Est-ce qu'il n'est pas tentant un petit peu hein, pour vous de traiter finalement les vignes avec des produits divers, quitte à faire un petit peu un cocktail chimique ?
Alors non, absolument pas, parce qu'on est vraiment dans des petites régions viticoles, les clients se promènent dans les vignes, les gens voient un peu ce qu'on se fait, et puis c'est pas du tout le but. Après on travaille en pays, on a des appellations, enfin des
labels du naturel,
production intégrée, où on a des aides un petit peu de l'État par rapport à ça, mais qui restent quand même minimes par rapport au surplus de travail. Et après le but c'est quand même de travailler pour notre clientèle, parce qu'on n'est pas là pour se battre par rapport à la concurrence, ou de toute façon avec les frais de production qu'on a, c'est juste impensable.
Donc vous utilisez des produits qui sont pas évidemment nocifs, tout ça est contrôlé, c'est ce que vous nous dites?
Oui, oui, c'est contrôlé, on a les insecticides, on ne peut pas en travailler, on peut faire des demandes spéciales avec, puis c'est des choses, on n'a pas envie, on part vraiment dans une optique, surtout, je dirais, dans la région de Châtel, Trois Lacs, qu'on bouge beaucoup à ce niveau-là, où on a, je dirais que la biodynamie, on part un peu là-dessus, c'est un petit peu, je pense, la tendance pour ces prochaines années.
Mais du coup, vos clients le savent, ça, que vous n'utilisez pas des produits chimiques, ou est-ce que vous devez les rassurer ?
Non, ça je crois qu'ils le savent assez, parce qu'on a les labels qui sont là, on reçoit nos diplômes parce qu'on est contrôlé. D'ailleurs, moi, ce sera la semaine prochaine, où c'est des collègues qui viennent, qui contrôlent, on contrôle tous les plans de traitement, tout ce qui se fait, ce qu'on peut mettre. Après aussi, au niveau de viticole, au niveau de la cave, des travaux de cave, on part même maintenant sur la gestion du commercial, où on travaille aussi avec des produits recyclés et tout ça.
C'est quoi les questions qu'on vous pose, justement, vos clients, quand ils arrivent en cave, et puis que peut-être qu'ils ont quelques craintes ou quelques questions, simplement? Quelles sont leurs préoccupations?
C'est un petit peu, je dirais, l'histoire des copeaux et autres. Après, voilà, c'est facile. On ouvre une porte et puis derrière la porte, il y a des barriques. Donc, c'est pas qu'il y a des cuves inox avec des... Puis on vend des produits en barriques alors qu'il n'y en a pas.
Et en regardant le raisin, par exemple, vous disiez, ils se promènent dans les vignes, ils voient un peu ce qu'on fait. Par exemple, si je vois des grappes de raisin un peu blanchâtres, un peu sales, est-ce que je dois m'inquiéter?
Non, justement. En plus, maintenant, on travaille justement contre la Suzuki. Donc, ça, c'est des traitements à l'argile. Donc, c'est des produits naturels. Et puis, le but, c'est d'embêter, on va dire, cette mouche pour qu'elle ne puisse pas se poser sur nos raisins, parce qu'elle a envie d'avoir des raisins propres et non pas des raisins sales.
Alors, aujourd'hui, hein, pour une quinzaine de francs, on trouve tous les vins à peu près de la planète, ou pour moins, en tout cas du moins le pays voisin, la France. Est-ce que c'est dire que vous ne pouvez pas, vous, gonfler vos prix? Et du coup, vos coûts de production ne baissent pas pourtant. Est-ce que, alors, comment on fait pour s'en sortir avec une concurrence qui met des prix autant faibles?
Je dirais qu'on a la qualité, le service, parce qu'on est au service de notre clientèle. Il y a la confiance. Et puis c'est vrai qu'après, je dirais qu'on a de la peine à faire passer le fait que l'on va mettre 3 à 4 francs de marketing sur la bouteille, alors que nous, on va être sur quelques centimes de marketing sur la bouteille, alors qu'à l'étranger, il peut venir, il y a des grosses marges. Chaque fois, il y a des marges. Le produit, à la base, il part très bon marché en France ou en Italie ou ailleurs. Mais seulement, il y a 2 intermédiaires qui prennent chacun 50%, plus tout ça. Donc voilà.
Être vigneron aujourd'hui, c'est plus difficile qu'à l'époque de vos parents, par exemple?
Bien sûr, maintenant, ça devient beaucoup plus complexe, on nous demande beaucoup plus de choses. Avant, on produisait, il n'y avait pas de problème de rendement. Les gens, ils manquaient de vin, donc il n'y a pas de souci. Les gens, ce qu'on faisait, ça partait, ça, c'était vendu, c'était un problème.
Ça veut dire que certains vignerons vont disparaître, selon vous, si on fait une projection?
Alors, je dirais que c'est comme dans la paysannerie, je veux dire, les petits paysans, les petits vignerons vont gentiment disparaître parce qu'il n'y a personne qui reprend derrière, ou ils vont, je dirais, s'associer ou se mettre à plusieurs pour pouvoir faire quelque chose. C'est ce qu'on fait déjà maintenant, acheter des machines en commun pour pouvoir un peu rentabiliser, parce qu'on ne peut pas justement augmenter nos prix de 20 ou 30% tout simplement parce qu'on a eu la grêle.
Jean-Claude Engelrath, merci beaucoup d'être venu avec nous pour nous dire aussi que le millésime 2016 s'annonce pas trop mal au niveau de la qualité, au niveau de la quantité. On vous laisse rejoindre vos clients, puisqu'apparemment vous avez une dégustation qui vous attend incessamment sous peu, et peut-être que vous ferez un tour du côté de la Neuville, puisqu'on le rappelle, la fête du vin de la Neuville, c'est dès ce soir et tout le week-end.
Eh oui, c'est prévu comme ça.
Très belle fête de la Neuville. Et puis, quant à nous, c'est l'heure de passer aux infos. Et on s'informe avec Sonia Bernauer-Mia. Bonsoir.
Bonsoir. 7697, c'est le nombre de signatures récoltées par l'initiative pour 2 hôpitaux sur autonomes et complémentaires, paraphes qui ont été déposées aujourd'hui à la chancellerie d'État du canton de Châtel. Le texte demande le maintien de 2 sites de soins aigus sur le littoral et dans les montagnes châteloises. Ce projet va à l'encontre des propositions faites par le Conseil d'État de Châtelois. Une délégation du Conseil exécutif bernois a lui distribué des tracts en gare de Moutier aujourd'hui. Objectif, présenter les retombées positives du maintien de la cité prévotoise dans le Jura bernois en vue du vote communaliste du 18 juin, une action qualifiée de propagande par le gouvernement jurassien. Les CFF lancent une campagne de prévention du suicide. Ils invitent les personnes aux pensées suicidaires à parler de leur situation et à recourir aux aides existantes. En moyenne, un peu plus de 110 personnes se jettent sous un train pour mettre fin à leur jour par année, un phénomène en augmentation. Rompre un contrat d'apprentissage, ça a un coût, avant tout supporté par l'apprenti concerné et par l'État plutôt que par les entreprises. C'est le constat dressé par l'Observatoire suisse de la formation professionnelle dans un premier rapport dédié au sujet. Un déraillement de train fait 4 morts et une cinquantaine de blessés en Galice, en Espagne. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet accident. Hockey sur glace, le HC La Chaux-de-Fonds accueille le HC Adjoie ce soir au Mélèze. Premier match de la saison de Ligue Nationale B pour les deux équipes. La rencontre aura un goût de revanche pour le HCC qui avait été éliminé en quart de finale la saison passée. Et en cyclisme, la 19e étape du Tour d'Espagne est revenue à Chris Froome. Le Britannique a devancé l'Espagnol Jonathan Castroviejo et le Suédois de Tobias Ludvigsson. Le soleil devrait encore être bien présent demain, mais quelques formations nuageuses pourraient s'inviter dans le paysage et devraient prendre l'ampleur l'après-midi. Le risque d'averse reste faible. Côté température, il continuera de faire chaud entre 12 et 17 degrés au petit matin et entre 22 et 26 degrés l'après-midi. Prochain point sur l'actualité, c'est le flash à 19h. Belle soirée.
Place publique.
Le Chant du Gros vit une 25e édition de rêve avec deux premières soirées enflammées et tout porte à croire que ça va continuer ce soir et ce week-end. Mais on le voit, hein, à l'issue de cette saison, tous les festivals en Suisse romande et dans la région ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a les géants comme Paléo et le Montreux Jazz qui prouvent chaque année leur puissance et leur ancrage dans le paysage suisse. Et il y a certains de leurs petits frères qui s'en sortent bien. On a parlé du Chant du Gros, mais il y a aussi Festineux et il y a aussi d'autres qui boivent la tasse ou qui peinent à durée.
Oui, avec nous pour en parler, Antonin Rousseau, directeur de Festineuge. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Festineuge, 16e édition a cartonné, on peut le dire, 45 000 festivaliers, des chiffres dans le noir, ça marche plutôt bien pour vous. Et pourtant, on l'a dit, pour d'autres c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui explique ces fortunes diverses et variées?
Ben, c'est marrant que je m'exprime juste après un vigneron, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de similitudes quand même entre le métier de vigneron qui travaille la vigne toute l'année pour une vendange sur une courte durée et le métier d'organisateur de festival où c'est, effectivement on travaille aussi toute l'année pour quelques jours de récolte. Il y a des bons millésimes, il y en a des moins bons. Mais j'ai l'impression que vraiment un festival actuellement, de même les festivals de musique, doivent offrir plus que de la musique. Et évidemment, les anciens, vous parliez de Parléo, de Montreux, du Chant du Gros ou de Festineux, ont eu le temps de se forger une identité. Et les gens viennent dans ces rassemblements, plus seulement pour écouter de la musique, mais aussi pour partager une réelle expérience, un moment convivial. Et c'est vrai que je pense que c'est là la force des anciens festivals qui ont réussi vraiment à se forger une identité forte et un esprit, en tout cas, que les festivaliers aiment à retrouver.
Alors justement, vous parlez d'un petit peu se démarquer avec d'autres activités autour. Finalement, c'est quoi la récompense de la durée? Qu'est-ce que vous dites à ceux qui aimeraient monter un festival dans la région ou dans l'arc jurassien, par exemple? C'est trop tard, il fallait y penser avant, ou quel conseil vous pourriez leur donner?
Ben, je dirais que c'est jamais trop tard, et il n'y a jamais trop de festivals. Je pense qu'il faut se réjouir en tout cas de cette volonté, et puis de cette envie en tout cas, qu'ont les gens de se retrouver, de communier, de partager des émotions collectives. C'est vrai qu'on est quand même dans un monde où il y a une certaine perte de valeur, et je pense que vraiment la culture et le vivre ensemble sont vraiment un peu, on peut dire presque des armes de reconstruction massive, et je pense que plus il y a de festivals, plus il y a de rassemblements comme ça, mieux c'est en tout cas, et je m'en félicite. Par contre, après, c'est vrai qu'il faut savoir ce qu'on veut faire. Il y a plein de petits événements qui visent vraiment un ancrage très régional. Je pense au Béroc, par exemple, qui a connu une excellente édition cette année. Des festivals qui vraiment cherchent à s'ancrer dans une région et qui cherchent pas seulement à proposer un alignement de noms sur une affiche et des artistes sur une affiche, parce que des concerts, il y en a pléthore en Suisse toute l'année, en salle et en festival après tout l'été. Donc il faut vraiment chercher à avoir une identité et s'ancrer, en tout cas, dans une réalité régionale.
Et parfois même, ça ne suffit pas. Hein. Si on regarde par exemple Rocco's Arène, qui a eu, alors c'est pas catastrophique, mais ils ont une édition plutôt mi-figue, mi-raisin cet été. Fornoy, c'est encore pire. Ils arrêtent tout bonnement du côté de Puy-Lausanne. Ça veut dire que même si on est ancré, même si on dure depuis un moment, même si on propose une identité, ça, parfois on n'est pas à l'abri d'un couac.
C'est vrai qu'on est, toujours dépendant. C'est un métier qui est extrêmement difficile parce qu'on est dépendant de la programmation. Ceux qui connaissent pas le métier de programmateur ont des fois l'impression qu'il suffit, que c'est comme aller au supermarché, qu'il n'y a qu'à se servir un peu de ce qu'on veut, alors que c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel, pas seulement en Suisse, mais c'est vraiment une concurrence internationale qui est très rude. Donc au niveau de la programmation, on fait pas toujours ce qu'on veut et on est dépendant aussi très fortement et lourdement de la météo. Donc il y a des bonnes années, il y a des moins bonnes années, mais évidemment plus un festival a réussi à fidéliser son public, plus les gens ont plutôt le réflexe d'acheter tôt leurs billets. Plus ces événements deviennent incontournables pour Festinoche, on sait que pour beaucoup de Neuchâtelois, c'est devenu un événement incontournable, comme la fête des Vendanges, dans un autre rayon, avec vraiment un contenu culturel très riche. Mais effectivement, certains festivals pourtant bien ancrés, comme le Foreigners, disparaissent. C'est aussi le Foreigners, une taille de festival qui est assez critique. Il y a les gros festivals, je pense, qui n'ont pas trop de soucis à se faire. Il y a les petits festivals qui ne sont pas forcément au même niveau, au niveau de la concurrence, au niveau des têtes d'affiche, qui tirent aussi leur épingle du jeu. Mais il y a beaucoup de festivals aussi entre deux, pour qui c'est vraiment difficile, parce qu'ils n'ont plus forcément les moyens financiers d'attirer des grosses têtes d'affiche. Et par contre, ils ont quand même une jauge qui nécessite des gros noms pour continuer à vendre des tickets. Donc c'est vrai qu'il y a des festivals entre deux qui ont bien sûr un peu du souci à se faire.
Alors vous avez parlé de la météo, vous avez parlé des festivaliers fidèles, mais finalement, alors effectivement, renouveler à chaque fois sa programmation, ses têtes d'affiche, est-ce que les festivals généralistes ont plus de chances de fonctionner que des festivals de niche? En fait, finalement, lequel a le plus de chances?
Je pense que c'est difficile de tirer des généralités comme ça. Des festivals de niche comme le Bad Bone ou comme le Rock Altitude, aussi plus proche, c'est vraiment des festivals qui ont leur place, parce que c'est un public qui se déplace de loin. C'est des festivals qui ont une identité aussi très forte. Les gens savent ce qu'ils vont y trouver. Donc ces festivals-là ont un avenir très clairement. Les festivals généralistes comme le Chant du Gros, comme Festinoche ou Paléo,
ou le SMAC à Delémont qui vient de naître,
voilà, sont des festivals qui encore une fois deviennent des événements populaires conviviaux qui rassemblent les gens, et ces événements-là où les gens n'ont plus forcément le réflexe de venir uniquement pour la programmation. Mais je sais que si Festinoche, si c'était la première édition en 2016 qu'on annonçait la programmation qu'on a annoncée cette année, je pense pas qu'on aurait vendu plus de la moitié des billets qu'on a vendus finalement cette année, parce que les gens viennent aussi pour cet événement, pour se retrouver, pour vivre des émotions collectives. Et je pense que ça, cette identité, c'est aussi beaucoup le sens et les valeurs aussi qu'on met derrière un événement. Événements comme Festinoche ou comme le Chant du Gros, qui restent des événements à but non lucratif, vraiment à but idéaux. Et ça, je crois que les gens le savent. Ils se rendent compte qu'on n'est pas là pour se reposer sur nos lauriers. On n'est pas des événements commerciaux. On est des événements qui veulent vraiment vendre du rêve et rassembler un maximum de gens et proposer vraiment des nouveaux projets.
Alors comment on fait justement pour fidéliser les festivaliers? Comment on se démarque un petit peu?
Je pense qu'il faut se démarquer avec un site, avec une qualité d'accueil, avec un sens de la convivialité. Ce que fait très bien le Chant du Gros actuellement. Le Chant du Gros, c'est ses feux, c'est vraiment l'envie de se réunir, de se retrouver vraiment. C'est l'événement incontournable, beaucoup de francs montagnards et bien au-delà de la région jurassienne. Festinoche aussi. Donc c'est vraiment oser investir, mais c'est peut-être un luxe que peuvent se payer les plus vieux festivals, mais oser investir sur la qualité de l'accueil, sur la mise en lumière, sur des endroits annexes aux scènes, pour ne plus être dépendant uniquement que de la programmation. Après, je tiens à rassurer tout le monde, Festinoche, la musique ne sera jamais un alibi, en tout cas pour une fête populaire. C'est avant tout la musique qui rassemble.
J'ai pas envie de vous faire dire ce que vous n'avez pas dit, mais on a l'impression que pour des festivals de cette taille, on parle quand même de plus de 3 millions de budget, c'est quand même pas rien. Vous dites que c'est pas commercial, mais il y a quand même un enjeu économique très fort. On peut pas faire ce qu'on veut au niveau de la programmation, il faut attirer une masse critique. Est-ce qu'au final, quand on a la taille de Festinoche ou du Chant du Gros, on est plus dans le business que dans la programmation artistique, puisqu'on a, comme vous le dites, beaucoup, beaucoup de contraintes?
Il y a les deux. Il y a une partie du boulot qui est du business, très clairement. Il y a une part de commercial, c'est vrai, quand on achète et quand on vend des billets sur des têtes d'affiche, il y a une partie de commercial, effectivement. Mais il y a tout ce qu'on veut aussi transmettre et donner derrière, tout le reste de la programmation, où là, vraiment, je sais qu'autant Gilles-Pierre que moi, on se fait plaisir aussi en amenant plein de découvertes, en offrant aussi une vitrine pour tous les groupes régionaux. Donc je pense que c'est vraiment un équilibre à trouver. Mais je dirais que Festinoche, si on en est là où on est maintenant, c'est aussi parce qu'on n'a jamais voulu vendre notre âme au diable non plus, jamais voulu trop gros, plus cher. On a toujours voulu miser avant tout sur la qualité du contenu, sur vraiment un événement convivial, et pas chercher toujours la fuite en avant et proposer toujours plus gros, plus cher. Voilà.
Gilles-Pierre, vous en parliez, nous disait récemment dans Sortie de boîte, une émission économique du jeudi soir, que c'est vrai, sur l'affiche de notre festival, disait-il, c'est pas le reflet strict de notre discothèque, c'est pas ce qu'il y a dans notre iPod.
Évidemment.
iPod, c'est très vintage, ça. Dans notre iPhone, on va dire.
Mais non, évidemment, on fait autant Gilles que moi un festival, enfin que moi, que nous, et Gilles et son équipe, et nous, enfin toute l'équipe de Festinoche. C'est vrai qu'on essaie de proposer un festival qui réunit toute génération confondue, tout milieu confondu, et je crois que c'est ça qui fait la magie de nos événements. Donc évidemment, on va bien au-delà de nos goûts personnels. Moi, à chaque fois, quand je réfléchis à la programmation, je me dis qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui plaise autant à mes grands-parents, mes parents, que ma petite sœur ou mes neveux et nièces, et c'est ça aussi qui fait la magie d'un festival. Mais encore une fois, je pense que la musique n'est jamais un alibi, en tout cas dans ces événements-là. C'est vraiment un contenu culturel fort qui rassemble et qui rend ces instants de convivialité, de rassemblement, en tout cas très riches.
On parlait de vignerons tout à l'heure, vous faisiez un lien, on va faire un lien, encore un, pour conclure peut-être. On demandait aux vignerons, est-ce que, selon vous, si on fait des projections, certains producteurs vont disparaître? Est-ce que vous, si vous regardez un peu ce qui s'est passé en 2016 et les années précédentes, vous avez l'impression que certains festivals risquent de jouer leur peau, ou que le paysage va se modifier d'une manière ou d'une autre?
Oui, je pense très clairement, certains festivals vont disparaître, des nouveaux vont naître aussi. C'est ça qui fait aussi la magie aussi de ce marché, entre guillemets. Mais je pense que c'est avant tout les festivaliers qui décident. Il y a une espèce de sélection naturelle. On dit des fois, mais il y a trop de festivals en Suisse. Mais tant mieux, parce que la majorité quand même de ces festivals, et la majorité des festivals du canton fonctionnent et attirent plus de monde. Donc les gens sont friands et ont envie de venir, peut-être qu'ils partent un peu moins loin en vacances l'été, et qu'ils profitent en tout cas de venir se dépayser dans des festivals ici en Suisse romande. Donc oui, je pense qu'effectivement certains ont plus de soucis à se faire pour leur avenir, mais c'est vraiment avant tout le public qui fait son choix et qui s'identifie à tel événement plutôt qu'à un autre. Mais évidemment, pour les nouveaux venus, c'est pour eux que la tâche est la plus compliquée.
Vous serez tout à l'heure au Noirmont, hein, au Champ du Gros. Un petit mot sur ce festival un peu particulier en altitude.
Mais c'est vrai que c'est vraiment un peu un ovni dans le paysage des festivals romands. Mais je crois que c'est tellement un festival qui est à l'image d'une région, à l'image aussi des gens qui le portent. Je pense pas seulement à Gilles-Pierre, mais toute l'équipe. C'est vraiment un festival qui a, encore une fois, une identité très forte. Et je crois que c'est ça qui fait sa richesse. On n'y va pas pour forcément... c'est pas un festival 3 étoiles au niveau du site. Quand il pleut, ben vraiment, il pleut. Il fait des fois froid, c'est des fois rude. Mais c'est à l'image vraiment, je dirais, d'un état d'esprit et d'une région qui a une certaine rugueur, qui a un certain relief, et je crois que c'est ça que tant les festivaliers que les artistes aiment, parce que c'est vrai que les artistes adorent vraiment venir jouer au Champ du Gros, et je me félicite en tout cas du succès et de ces 25 ans du Champ du Gros que je me réjouis d'aller fêter tout à l'heure.
Et je confirme, vous n'avez pas de ciré ni de bottes, vous êtes plutôt en t-shirt, donc ça veut dire qu'il fait beau par là-haut.
C'était une première, j'y étais mercredi pour Manu Chao, je crois qu'à 11h30 on était encore tous en t-shirt, je crois que c'est un fait assez exceptionnel pour le Champ du Gros, mais c'est vrai que c'est mérité, et je crois que c'est là un joli clin d'œil aussi pour 25 ans de succès.
Antonin Rousseau, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et puis on vous souhaite une excellente soirée du côté des Franches-Montagnes.
Merci, pareillement.
Place publique. Dans 10 jours, Delémont ne sera plus jamais comme avant, on peut le dire. La capitale jurassienne va voir déferler des centaines de nouveaux étudiants dans le quartier de la gare grâce à l'ouverture du campus Stratégie. Le bâtiment abritera, on le rappelle, de nombreuses formations supérieures en santé, économie, ingénierie et sciences de l'enseignement. En tout, quelques 600 personnes vont graviter dans les environs de la gare. Alors un nouveau campus, ça a des conséquences bien sûr heureuses pour la plupart, mais on imagine qu'il faut aussi gérer quelques nuisances.
Avec nous pour en parler, le maire de Delémont, Damien Chapuis. Bonsoir.
Bonsoir.
À quelques jours de la rentrée et de l'inauguration de ce campus, est-ce que tout est sous contrôle? Quel sentiment domine?
Oui, je dirais que les choses ont été prises de la bonne des manières afin que l'on puisse accueillir au mieux cette inauguration. Les élèves ont déjà rejoint le nouveau campus tertiaire et les premiers retours que l'on a sont plus que positifs, donc tout est sous contrôle est un bien grand mot. On se réjouit de pouvoir accueillir les différentes personnes qui participeront à l'inauguration. Ça se met en place du côté de la gare, vous l'avez dit en préambule, c'était un grand chantier, c'est quelque chose qui va changer le paysage de la vie de Les Montaines, mais on se réjouit que tout se passe pour le mieux.
Alors on dit que ça va changer, vous le dites, ça va changer du jour au lendemain à Delémont. Qu'est-ce qui va changer concrètement, là, comme ça, quasi visuellement, pour les Delémontains qui se promèneront du côté du quartier de la gare?
Je rencontre de temps en temps des personnes qui ne sont plus venues depuis une vingtaine d'années à Delémont et qui me disent « Mais attendez, on ne reconnaît pas cette ville, elle a été en constante mouvance ces dernières années. » Ça fait plaisir de l'entendre et de remarquer qu'on a agi pour que nous ayons un développement qui soit favorable, que nous puissions répondre aux différentes attentes des Delémontaines, mais également de la population jurassienne, puisque ce campus tertiaire n'est pas que là pour les Delémontains, mais bien pour l'ensemble de la population jurassienne, voire au-delà de nos frontières. Le site n'est pas non plus anodin, à proximité de la gare. Nous défendons fortement la volonté de pouvoir rester sur ce réseau entre Genève et Bâle. Donc on se trouve à proximité de nos voisins directs, que ce soit Neuchâtel, à moins d'une heure, on se retrouve à Delémont. Donc on fait évoluer ce paysage ici à Delémont et tout devra être pris en considération par l'ensemble des partenaires que l'on a à disposition à proximité de la gare, justement.
On parle des avantages de l'ouverture du Jura de Delémont sur le reste de la Suisse. Mais est-ce qu'on peut aussi s'attendre à quelques nuisances, hein? Moins de place dans les trains, des terrasses bondées, les places de parc prises, des déchets dans la rue. Est-ce que vous vous attendez à ça?
Alors, la problématique des places dans les trains, je crois qu'elle est du ressort des CFF, mais tout a été pris en considération afin qu'on puisse parfaire à cette offre. Nous avons d'ailleurs augmenté la cadence des trains, que ce soit vers Bâle ou vers la région biennoise ou vers Neuchâtel, avec une fréquence à la demi-heure pour avoir des trains en suffisance. Et par la suite, au niveau de Delémont, bien évidemment que nous devons prendre des choses en considération. Nous essayons non pas d'éduquer la population, mais de leur faire comprendre qu'il y a certaines règles à respecter, notamment au niveau des déchets. Il y aura plus de monde sur les terrasses, mais je crois que c'est une chose que l'on peut tourner d'une manière positive.
Clairement.
Très clairement, bien sûr, puisque les travaux de la gare routière et du campus tertiaire ont amené une certaine problématique durant l'ensemble de ces travaux. Et je crois que maintenant, il est à l'heure de se réjouir et de remarquer que l'ensemble des personnes vont fréquenter le quartier de la gare et ça sera un quartier qui sera très dynamique.
Est-ce qu'au niveau de l'offre commerçante, il va y avoir des changements? Est-ce que vous le savez ou pas? Est-ce que les commerçants se frottent les mains? Est-ce que ça va bouger à ce niveau-là?
Mais ça a déjà bougé, à mon sens, puisqu'on a vu différents commerces s'ériger ces derniers temps afin de répondre à cette future demande. C'est vrai que j'ai reçu, pendant les travaux, encore une fois, les différents responsables de la gare qui faisaient grise mine et qui disaient que c'est dommage, on est en train de perdre une certaine clientèle. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, on remarque que le sourire revient gentiment sur le visage des différents partenaires. Et j'espère qu'ils soient prêts afin de répondre à l'offre, enfin plutôt à la demande, et qu'ils puissent proposer l'offre qui est nécessaire pour accueillir l'ensemble des personnes qui fréquentons ce campus. Comme vous l'avez souligné également en introduction, ça ne sera pas moins de 600 personnes qui le fréquenteront. Donc on doit être au top, on doit être présent et on doit montrer que l'on est accueillant sur sol jurassien. Mais ça, je n'en doute pas.
Je joue un petit peu le rôle de la méchante, hein, Gabriel. Faites, vous ressortez les avantages, moi je vais sortir les désavantages.
C'est très bien.
Est-ce que vous avez quand même reçu quelques critiques par rapport au bâtiment, par rapport justement un petit peu au paysage dans lequel il est? Est-ce que des gens se sont plaints en fait qui gâchaient un petit peu le paysage?
Non, pas vraiment. J'ai pas reçu l'ensemble de ces critiques puisque la ville de Delémont est proactive, il me semble, dans le domaine. Nous avons d'ailleurs défini un nouveau plan de zone dernièrement, une nouvelle réglementation communale pour les futures constructions et celles qui viennent de voir le jour par l'intermédiaire également d'un plan directeur communal. Les choses sont réglées en tant que telles. Un concours a été lancé afin de pouvoir réaliser le campus stratégie et je crois que tout s'imprègne parfaitement dans le paysage de la gare de Les Montaignes. Peut-être les critiques, puisque apparemment vous cherchez à obtenir certains éléments par rapport à cela. On peut, et c'est une problématique cantonale, mais qui doit être prise également en considération au niveau de la ville de Delémont, c'est peut-être les salles qui sont mises à disposition. Et là, je parle notamment de salles de sport. Le campus stratégie, malheureusement, ne proposera pas de salles de sport. Donc c'est quelque chose que l'on doit régler à d'autres endroits de la ville, à d'autres endroits du campus. canton pour pouvoir offrir les places nécessaires afin de donner des leçons de gymnastique.
De Lemont aura des allures de ville universitaire. Est-ce que vous allez faire en sorte que ces élèves qui viennent étudier à De Lemont ne soient pas que des pendulaires, que les élèves qui viennent d'ailleurs même aient envie de s'installer dans votre ville? Est-ce qu'il y a des conditions attractives ou une anticipation qui a été faite à ce niveau-là, que ce soit au niveau des logements vacants, que ce soit pour des avantages divers et variés?
Oui, effectivement, on a pris cette problématique au sérieux et on l'a également, nous l'avons défini dans notre dernier plan directeur. Et pas plus tard que ce matin, nous avons fait la pose de la première pierre dans un quartier dit de la Mandchourie à De Lemont, où nous recevrons des unités telles que les crèches, une division fédérale. C'est la première qui vient dans le canton du Jura, donc vous voyez que ça
on en a parlé cette semaine, ouais, la division alcool et tabac.
Exactement. Oui. Mais dans le même bâtiment, nous avons prévu des logements pour étudiants, donc qui pourront répondre à une certaine demande qui sera faite de la part des personnes qui fréquenteront le nouveau campus et à d'autres endroits également. Le but est de vraiment montrer eh bien, qu'on peut venir étudier à De Lemont, mais qu'on peut également s'y sentir bien et pourquoi pas y habiter par la suite.
Dans le bâtiment stratégie, il y a évidemment la HEP qui va former au bachelor d'enseignement. Et puis il y a aussi la HEARC qui est en partenariat avec la Haute École à Neuchâtel. Vous travaillez en collaboration. Alors je ne sais pas si vous pouvez nous donner une réponse, si vous faites partie des décisions, mais on sait que pour certaines filières de la HEARC, il n'y a que la première année ou voire les deux premières années d'études qui sont fournies à De Lemont. Le reste se fera à Neuchâtel. Est-ce que ça va changer aussi maintenant avec ce nouveau campus?
Alors honnêtement, vous me posez une colle de savoir de la manière dont on va faire la troisième année ou non, mais je dirais que les choses...
Est-ce que c'est votre souhait de pouvoir faire les trois années à De Lemont?
Mais je dirais que l'on doit s'entendre au niveau de l'ensemble des cantons, et la HEARC a été créée dans ce sens pour défendre le poids entre les cantons de Berne, de Jura et de Neuchâtel, et d'avoir une voix plus importante au niveau de la HESSO, qui regroupe l'ensemble des HES du territoire roman. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons voulu en faire entendre notre voix. Donc je pense qu'il serait faux de prétendre à avoir l'ensemble des formations complètes et d'une durée de 3 ans sur sol de Les Montagnes. Nous devons nous entendre avec nos voisins pour réfléchir aux synergies qui peuvent être développées sans vouloir tout manger, si vous me permettez l'expression, ici à De Les Montagnes.
On a donc le campus stratégie à De Lemont qui va vivre son heure de gloire ces prochains jours. Est-ce que ça donne des velléités pour d'autres filières de formation? Est-ce que vous avez comme ça dans le viseur d'autres écoles qui pourraient s'implanter ou d'autres développements qui pourraient véritablement faire de Lemont un campus?
Alors on a des réflexions par rapport à cela, mais je crois que l'essentiel également, je disais, cette ouverture vers l'extérieur, on doit la prendre en considération. Mais nous devons également répondre aux besoins des Jurassiennes et du Jurassien. C'est un point clé, non pas que pour la ville, mais pour la République et canton du Jura. Et d'autre part, nous avons certaines pistes, notamment au niveau de la BD, par exemple, d'avoir des formations qui pourraient être données sur le site de Les Montagnes, puisque, comme vous le savez, si ce n'est pas le cas, je me profite de faire un peu de publicité par rapport à cela, de Les Montagnes a l'ambition de devenir la cité de la BD, et certaines formations pourraient être données, telles que scénaristes ou d'autres encore, sur sol de Les Montagnes, et bien la volonté de pouvoir proposer ces différentes formations dans un futur proche, que ce soit dans le campus actuel ou de développer d'autres pôles sur la ville.
Et au niveau universitaire, carrément, là on parle de haute école.
Ouais, je crois qu'il faut rester les pieds sur terre. Dans un premier temps, il n'y a pas de projection pour avoir une université dans le chef-lieu jurassien. Le campus est déjà un énorme pas. Il faudra remplir l'ensemble de ce campus. Il manque encore certains locaux qui n'ont pas trouvé preneur. Donc, dans un premier temps, concentrons-nous sur les choses que nous avons à développer. Et une université n'est, à mon sens, pas à l'ordre du jour actuellement.
Très bien, Damien Chapu, en tout cas, nous, on se réjouit quand même avec vous, même si on a évoqué quelques petites nuisances qui apparemment n'auront pas lieu, donc on s'en réjouit. On se réjouit donc de Stratégie qui va accueillir le gros des étudiants, puisque vous l'avez rappelé, hein, il y a déjà des étudiants de la HEP qui ont pris possession des lieux. On va se réjouir avec vous donc de cette ouverture. Le compte à rebours va enfin arriver à zéro du côté de la gare de Lemont. Et puis on vous souhaite une excellente soirée et on vous remercie d'avoir été avec nous.
Merci à vous aussi, très bonne soirée.
Et voilà, Place Publique, eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez retrouver l'intégralité de cette émission, eh bien, c'est complètement possible. Il vous suffit de vous rendre sur nos sites internet rjb.rtn ou rfj.ch. Et puis, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Gabriel, vous serez là ?
Je serai là, en tout cas, si le ciel le permet.
Mais le ciel le permettra.
Merci. Bonne soirée et bon week-end à tous. Au revoir.